problems. It's human nature to hate problems. But why is that? After all, problems inspire us to mend things, bend things, make things better. That's why so many people work with IBM on everything, from city traffic to ocean plastic, new schools to new energy, flight delays to food safety. Smart loves problems. IBM. Let's put smart to work. Visit ibm.com/smart/UK to learn more.
Vous écoutez
RMC.
C'est un sport, à mon avis, qui est un sport d'adresse, qui est un sport d'habileté, de souplesse, d'intuition. C'est pas un sport de contact, le football.
Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot.
Si on veut pas de contact, on va jouer aux osselets, on va jouer à la pétanque, mais on joue pas au football.
C'est 11 mecs contre 11 mecs, et ça devient aussi une question de centimètres, tu vois.
C'est la beauté de ce sport, du football en particulier.
Nicolas Jamin.
Jonathan Bacardi, Kevin Diaz, encore une bonne heure d'after avec un gros programme bien sûr après avoir balayé l'actu Ligue 1, en tout cas l'actu du samedi soir. Reparlons du PSG, messieurs, parce que le PSG, donc on le rappelle, hein, match reporté qui aurait dû jouer aujourd'hui à 17h30. Une bonne nouvelle selon coach Grobis parce que au moins il n'y a pas de blessés.
Je pense aussi.
T'es d'accord avec ça toi?
Ouais.
Ah ouais,
complètement.
Bon.
Je peux te dire, Nico,
qu'il faut jouer au foot.
Nico, ouais, mais Nico et Jonathan, je peux te dire qu'il y avait absolument aucun joueur du Paris Saint-Germain qui avait envie de jouer à la Méno hier.
Ouais, mais tu sais, je pense, très brièvement par rapport à ce qu'on disait hier. Oui, c'est une bonne chose pour le Paris Saint-Germain, mais le fait que ça soit une bonne chose souligne à quel point ce club est traumatisé par ses huitièmes de finale de Ligue des Champions et à quel point ce club n'est pas serein au moment des printemps européens.
Appelez-nous, supporters parisiens, au 32-16, bien sûr, le hashtag RMC Live, l'application Direct Studio, vos messages, je les lirai à l'antenne, hein, même si vous insultez nos... Non, c'est pas vrai, jamais. Jamais.
Avec amour, moi je prends tout avec amour et avec humour.
Les infos donc, entraînement ce matin en camp des loges, messieurs, voilà, Thiago Silva postule sérieusement pour Dortmund, on en parle dans un instant, il a fait l'entraînement, 20 jours sans match, ça fera 20 jours sans match mercredi soir.
Il n'y a pas une musique de Mr.
Bean
en même temps.
Dans un instant on débat là-dessus, hein. Doit-il être titulaire mercredi, faut-il l'écouter et lui faire confiance, c'est lui qui ressent son corps. Également appel à la mobilisation générale du collectif Ultra Paris. Bien sûr, pour comme il avait déjà fait, hein, d'ailleurs contre le Real notamment, je me rappelle, pour soutenir ce PSG-là et enfin retrouver les quarts de finale de la Ligue des Champions. Nous accueillons Haroun, supporter du Paris Saint-Germain,
bon, lui,
au 32-16. Bienvenue dans l'After, Haroun.
Salut les gars.
Salut Haroun.
Bon, t'as écouté les infos, hein, que j'ai égrenées. Pour l'instant, a priori, on part pas sur un huis clos également. Hein. C'est important, mercredi soir, le PSG prépare, hein, comme d'habitude, la présence de 47 000 supporters au parc.
Ça peut changer.
Ça peut changer, évidemment. Je rappelle que hier matin, la Ligue et la préfecture du Rhin pensaient que le match allait se jouer. Finalement, il a été reporté. Haroun, d'abord, un mot sur Thiago Silva. C'est quoi ton avis là-dessus? Lui, alors, il en fait une affaire personnelle. Il veut absolument jouer. On rappelle le contexte. Il est en fin de contrat. Et il estime qu'un gros match mercredi soir peut peut-être commencer à convaincre Leonardo de le prolonger.
Alors moi, ça va être très simple. À travers ça, je vais quand même identifier le problème qui est que il n'y a pas de gestion dans ce club, c'est n'importe quoi. Le mec, il va sur Twitter, je sais pas quel réseau, il dit qu'il est prêt pour jouer. Hey, mon coco, on t'a donné ta chance. T'as eu l'occasion de montrer que pendant les grands matchs, tu étais présent. Et là, t'as souligné quelque chose de très important juste avant que tu me laisses parler, si tu dis, il est en fin de contrat. Voilà pourquoi le mec, il va absolument jouer et montrer ce qu'il vaut.
Exactement.
Sauf que nous, on a déjà vu ce qu'il valait. Et à un moment donné, moi, j'aimerais bien que ce mec-là, on le mette sur le côté. Et qu'on laisse KPMB Marquinhos.
Exactement.
Parce que Tourelle aussi, il nous fait chier à mettre Marquinhos derrière, devant la défense. Ce n'est pas son poste.
Exactement.
Non, c'est clair. Le mec qui recule, on n'a pas besoin d'une équipe qui recule. On a besoin justement de jouer de l'avant parce qu'on a des tueurs devant. On a des tueurs.
Non, mais t'as complètement raison, Haroun. Et moi, je pense que. Bon, alors maintenant, au Paris Saint-Germain, moi, j'ai rien contre Thomas Tourelle. Au contraire, j'aime bien ce qu'il a proposé jusqu'au match de Dortmund.
Oui, t'as dit qu'il était agréable à l'œil même.
Non, mais juste Haroun, laisse-moi juste finir. Je trouve qu'à Dortmund, j'ai revu le match deux fois, il s'est complètement trompé, mais ça peut arriver, il reste encore un match retour et le Paris Saint-Germain est complètement dans la course.
Je suis d'accord avec toi.
Maintenant, écoute, pour moi, au Paris Saint-Germain, il y a une chose qui est claire. T'as un champion du monde, qu'il ait joué ou pas, il est champion du monde, il s'appelle Kimpembe, aujourd'hui, qui est apte à 100%, qui a joué tous les derniers matchs. Et à côté, t'as le défenseur titulaire de l'équipe nationale du Brésil. Est-ce qu'on peut le mettre à son poste, s'il vous plaît, Monsieur Tourelle?
Et t'as Paredes aussi.
Et je vais rajouter, devant lui, T'as un international argentin.
Non, non, le milieu de terrain récupérateur qui joue devant la défense.
Non, mais attends, ne survendez pas Paredes non plus. Non, mais je pour pas l'instant, Paredes. Son bilan n'est pas,
je
pas incroyable.
Pas ah,
il est pas mal.
Tu as Paredes qui est là. À côté de lui, t'as un international sénégalais. T'as quand même des joueurs au Paris Saint-Germain qui sont pas des manches, qui ont pas été zéro depuis le début de saison, qui sont premiers au classement en Ligue 1.
Ouais, d'accord. Bon, ça va rien dire, ça, Kevin.
Mais peu importe. Ils sont premiers au classement en Ligue 1. Ils ont fait une bonne phase de groupe. OK. Il y a des blessés. Il y a un joueur qui revient de blessure comme Diallo. Tu ne peux pas jouer au plus haut niveau quand tu n'as pas assez de minutes pour jouer contre des attaquants comme ceux de Dortmund. Donc Diallo, pour moi, il peut pas jouer titulaire.
Non, mais Diallo,
et maintenant, j'ai fini juste et après, je te laisse la parole à Roule. Et derrière, tu as Thiago Silva qui revient d'une blessure il y a à peine 20 jours. T'es blessé, t'as presque 35 ans. Tu ne peux pas postuler pour être titulaire dans ce match. C'est juste impossible. Physiologiquement, c'est impossible. T'es blessé musculairement. C'est une des blessures du footballeur qui a le plus de récidives. Tu vas jouer, tu vas être ridicule, tu vas te blesser à la 20e et ce sera catastrophique.
C'est pire que ça, en fait.
À travers ça, moi, ce qui m'agace le plus, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que même Tourelle, quand il l'annonce, il manque de lucidité, ce mec-là. Enfin, à un moment donné, il a été footballeur. Moi, je suis footballeur à minima, j'ai joué en amateur, et à un moment donné, ça n'existe pas.
Mais
20 jours, t'as pas joué, mon garçon, tu peux pas.
Arun, je vais te dire pourquoi. En quoi, t'as raison, mais je trouve que c'est encore pire que ce que l'on décrit. En fait, ce comportement de Thiago Silva, c'est simplement l'illustration parfaite de tous les maux du Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que t'as une bande de joueurs qui pensent qu'à sa gueule.
Et basta.
Exactement. C'est des joueurs qui pensent qu'à leur gueule. Thiago Silva, il est en fin de contrat. Il pense qu'à prolonger parce qu'effectivement, 1 million d'euros par mois, il va pas trouver beaucoup d'offres comme ça. Donc, il fait passer son cas personnel avant celui du club. Il a pas conscience qu'il a déjà fait partie, qu'il a déjà contribué à ridiculiser le Paris Saint-Germain sur la scène européenne. Là, écoute, t'as totalement raison et Kevin aussi. Si t'es lucide, tu sais très bien que tu peux pas jouer. T'as pas joué depuis un paquet de temps. Tu vas pas avoir le rythme. Tu vas encore faire couler ton temps.
J'ai 35 ans et que toi,
messieurs, j'ai été à sa place.
Chacun son tour. Vas-y, Kevin, et après Aaron.
J'ai été à sa place et tu dis que t'as joué en amateur, peu importe. Tu l'as sûrement été. En tant que joueur de foot, professionnel ou pas, moi, je crois tout à fait à la sincérité de Thiago Silva qui veut jouer ce match. Maintenant, on est tous obligés de penser, tu l'as dit Jonathan, je suis d'accord avec vous, qu'il y a aussi le fait qu'il est en fin de contrat. Peut-être que s'il n'est pas en fin de contrat, c'est moins important de jouer ce match. Ok, mais de toute façon, je le crois qu'en compétiteur, il veut jouer, c'est le capitaine, c'est un joueur qui, je pense, est quand même un bon professionnel, il a tout fait pour être apte, mais aujourd'hui, il ne peut pas faire partie de la discussion. Et le problème, c'est qu'il fait partie de la discussion parce que Thomas Tuchel s'est mis en tête de mettre Marquinhos au milieu. J'ai vu Marquinhos au milieu, j'étais au premier rang au Parc des Princes. Marquinhos, peut-être, je l'espère pour le Paris Saint-Germain qui sera bon contre Dortmund, n'empêche que ce n'est pas un milieu de terrain.
Et moi, j'espère qu'il sera pas au milieu de terrain.
Mais ça, c'est le choix de Tourelle. Tourelle veut en faire son milieu de terrain. Voilà, parce que je pense qu'il estime qu'il n'a pas de mec aussi costaud que lui.
Il y a une chose qui m'inquiète juste sur ce match-là. Bon, il y a plusieurs choses. Évidemment, s'il met Marquinhos au milieu de terrain, c'est quand même sur le côté droit de ta défense. Parce que là, on a égrené en fait le nom des joueurs qui étaient soit blessés, ou trop justes, qui revenaient de blessures, comme Diallo, comme Thiago Silva, comme Kouassi, qui est peut-être un peu jeune. Tu vas quand même jouer avec Kerrer côté droit. Et ça, je trouve que c'est quand même
Kerrer,
assez flippant.
Vessis versus Sancho.
C'est Sancho.
Qui aujourd'hui fait un gros match.
Ouais. Il entre, il joue une demi-heure et il dynamite
ça
la défense.
Ça vous fait pas flipper ce côté droit?
Oui, mais bien sûr.
Vas-y, Haroun.
Attends Nico pour finir. Pourquoi je dis ça? C'est parce que par rapport à ce qu'on dit sur Marquinhos, parce que Marquinhos il joue de quel côté de la défense? Il joue axe droit. Donc vu que t'es obligé de jouer avec Kerrer côté droit parce que Meunier est aussi suspendu, blinde-le ton côté droit. Mets-lui Marquinhos parce que sinon tu risques de te prendre l'eau.
Vas-y Haroun.
Juste pour conclure ce que je disais moi, ce club-là, ça me fait mal au cœur. Enfin moi. Ça fait plusieurs années que je suis supporter du PSG, j'ai connu le but d'Amara Djane, la souffrance que l'OM était de nous mettre 3-0 au Parc.
Haroun, vous êtes pas mal.
Ouais, mais franchement, et j'ai envie de te dire, quand je vois ça, ça me fout les boules, tu vois. Ça me fout les boules parce que je me dis, putain, on a plus d'âme, tu vois. Tu vois le match aller, on n'a pas d'âme. On n'a que des mecs, on a 11 gars sur le terrain qui ont le même maillot, mais qui ne sont pas ensemble. Qui sont pas ensemble, mais chacun joue son petit truc, essaye de faire en sorte. Alors que contre Lyon, j'ai trouvé Gueye extrêmement moyen. Et je me dis, mais attendez, mais est-ce que Gueye, cette année, ce sera pas l'homme d'un match? C'est en train de me dire ça, parce qu'au PSG, on en a eu des mecs qui nous ont fait ça. Et est-ce que lui, il est pas en train de nous le faire? Paredes, il fait un bon match, mais est-ce qu'avec la pression, parce qu'Emre Can, je l'ai encore vu jouer tout à l'heure, putain, il met les pains qu'il faut, ce mec-là. Il fait sa loi au milieu de terrain. Est-ce qu'il va pas faire sa loi au Parc? Et je me dis, mais moi, je pense qu'on va se qualifier. Mais ça ira pas plus loin. Notre projet, où il va?
T'as raison, c'est aussi l'échec de Tourelle, là, en tout cas, après son deuxième
Tourelle,
exercice.
Il faut qu'il reste lucide. Mais de toute façon, je pense que Tourelle, il sait que c'est foutu. C'est fini. Que pour lui, dans tous les cas, qu'il aille en demi, ça sera foutu pour lui.
Ouais, il sera pas là l'année prochaine. C'est souvent que le Bayern l'attend dans une ou deux saisons.
Même
voilà.
S'il gagne, c'est, de toute manière, c'est sa dernière saison.
Son échec de Tourelle. De pas avoir réussi à créer un vrai collectif, quoi, tu vois. Il avait réussi au début, même en début de saison, quand ils reprennent les Parisiens.
Mais rappelez-vous,
quelque chose se dessine.
Cette équipe, en l'état, elle est inentraînable.
Mais
elle est inentraînable.
Je sais pas.
Cet effectif est inentraînable, à part si tu arrives à mettre Guardiola, mais je vous dis tout de suite, Guardiola, peut-être qu'il sera libre avec cette histoire de Manchester City. Guardiola, il va faire comme au bowling, ouais, il va faire un strike, et ils vont tous dégager, ils vont pas
ils
comprendre
vont
ce qu'il arrive.
Ils vont tous dégager pour reconstruire voilà. Un collectif.
Bon, après, attention, hein, Marquinhos, il reste, hein, parce que Marquinhos, non, lui, non, il est top, il n'y a pas de problème. Oui, oui, oui. Mais quand je dis ils vont tous dégager, vous savez de qui je parle. Et même Neymar, il pourrait dégager avec Guardiola. Ouais. Peut-être pas Mbappé. Mais voilà. Donc, mais sinon, tout entraîneur, on va dire, de sub-top européen qui est pas des 2-3 meilleurs, voilà, qui serait entre guillemets pas une plus grosse tête que ces joueurs-là, c'est impossible. Ils sont dans un tel système. Maintenant, j'espère qu'ils vont se qualifier. Mais le plus gros problème qu'a le Paris Saint-Germain, c'est même pas Marquinhos, c'est même pas Thiago Silva. C'est juste qu'en plus, ils jouent contre une très très bonne équipe de Dortmund qui est en pleine bourre.
Moi, je suis pas d'accord avec ce que tu dis pour deux raisons. La première, c'est que les 6 premiers mois de Thomas Tuchel, c'était extraordinaire. Le PSG jouait vraiment très bien. Et en fait, t'as eu ces pieds pris dans le tapis contre Manchester United avec une attaque décimée sans Neymar. Son Cavani, qui ont une nouvelle fois traumatisé le club. Là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que peut-être que t'as raison, mais en tout cas moi j'ai un doute. C'est parce que je pense que depuis Laurent Blanc, le Paris Saint-Germain s'est à chaque fois trompé sur le profil d'entraîneur. Ils ont misé sur des entraîneurs qui ont ce profil un petit peu comme tu aimes appeler scientifique du foot. Emery, Tourelle, ouais. Qui ont une forte personnalité tactique, qui ont plein d'idées sur le jeu, en oubliant l'essentiel. L'essentiel, c'est de prendre avant tout un entraîneur qui est capable de gérer un vestiaire avec des stars. Et c'est pour ça que fais une petite digression, ouais. Mais quand on parle d'Allegri, c'est vrai que c'est pas sexy tactiquement, mais Allegri, il a déjà dirigé Zlatan, il a été champion avec Zlatan, avec Robinho, avec Kaka et avec Pato, donc avec quatre gros égos. Il a su diriger Cristiano Ronaldo, et pour moi, c'est ça, en fait. Depuis Carlo Ancelotti, tu n'as jamais eu un entraîneur à la mesure psychologique du vestiaire du Paris Saint-Germain et d'un club comme le Paris Saint-Germain qui reste un club quand même particulier avec une médiatisation parfois agressive. Nous en sommes aussi parfois responsables, mais c'est vrai que ce qui se passe au Paris Saint-Germain, c'est toujours vu à travers une loupe grossissante. C'est comme
mais
Marseille,
c'est pareil
c'est
ailleurs. Ce qui se passe au Real, c'est pareil.
Est-ce que je t'ai dit que c'était pas normal? C'est normal.
Moi, je crois que c'est le club qui est un peu gangréné. Voilà.
Bien sûr.
Ça sera.
C'est pas une question d'homme en fait, parce qu'Ancelotti est passé. Ancelotti a un CV énorme, 3 Ligues des Champions. Et voilà, le problème, c'est pas le choix de l'homme, c'est le club dans sa globalité qui doit se remettre en question. Clairement. Haroun, tu vas rajouter quelque chose avant d'en aller ou pas?
Oui, bon, que j'espère quand même la qualification.
Mais oui, voilà, ça,
et je rassure tous nos auditeurs, hein, et je te finis, je te laisse finir. Mais nous, moi j'ai envie de parler du PSG jusqu'à la finale, il n'y a aucun problème.
Nous, ça nous arrange bien.
Pour nous, ça nous arrange mille fois que le PSG se qualifie. Jonathan, non?
Non, mais bien sûr, j'entends bien. Mais nous, les premiers, les supporters, on y croit.
Mais si, on a envie de parler de la Ligue des Champions avec les clubs français.
Mais voilà, j'espère pour la France et pour le PSG qu'on va se qualifier. Mais après, il va falloir quand même faire nettement mieux pour le PSG.
Jusqu'en finale,
merci Haroun.
Bah, jusqu'à la soulever, j'en ai marre que les Marseillais ils me chantent ça à chaque fois. Ah, vous ne l'avez pas. Si on l'a comme ça,
Haroun, mon pote. Haroun. Haroun, à jamais les premiers, mon pote.
Rendez-vous le 22. Ben.
Merci Haroun, excellente soirée. Bonne soirée à toi. Tiens, Dominique, salut, avec nous. Dominique, supporter parisien. Bienvenue dans l'after, Dominique.
Ouais, salut l'équipe.
Salut Dominique.
Bon, toi, déjà, qu'est-ce que t'en penses ce report de match? Toi, tu pensais qu'il fallait le jouer, qu'il aurait été mieux de le jouer, ou c'est comme le dit Coach Courbis ou Kevin Diaz, c'est très bien comme ça, il y a pas de blessés.
Non. Alors moi, j'aurais préféré le jouer pour deux raisons. Mais d'abord, ça aurait fait un match, hein, une compète. C'est quand même mieux que l'entraînement, premièrement. Et deuxièmement, moi je pense, j'espère vraiment, parce que je suis un vrai supporter de Paris, qu'on va se qualifier. Mais après, si on se qualifie, il y a l'écart, éventuellement les demi, ce que je souhaite, on risque d'avoir un problème de calendrier, parce qu'il va falloir le recaser ce match, quoi.
Il y a une finale de coupe aussi, c'est surtout ça qui est problématique.
Et en plus, voilà, on est qualifié pour les finales, nous, donc...
Bah ouais, mais ça c'est pas ton problème finalement, quoi. Ça c'est le problème de la Ligue notamment, quoi.
Ouais, et au pire t'enverras la Nationale 2. Ah non, il n'y a pas de Nationale 2.
Mais non, mais on peut pas envoyer la Nationale 2 et puis voilà.
Non, vous avez plus d'équipe réserve.
Ouais. Non, mais je veux dire, je sais pas, hier il y a eu un match de Nationale 2, deuxième division à huis clos. La décision, elle a été prise tard hier d'annuler le match. Le Parisien était déjà à Strasbourg.
Ouais, était 21h30.
Il fallait faire un huis clos, quoi.
Bah, c'est ce que le PSG voulait, hein, pour être très clair, les gars. Hein, ce qu'on disait hier, c'est une info RMC Sport. Paris voulait jouer ce match à huis clos. Il voulait absolument jouer ce match. Thomas Tuchel voulait sûrement affiner quelques réglages.
En milieu.
Ah bah, ça aurait été parfait pour un match à huis clos pour préparer. Ça aurait été un beau match d'entraînement, vraiment. Pour
après, Damien Perinel soulevait un détail qui, pour moi, je trouvais assez important. C'est que, bon, c'est contre Strasbourg, avec quelques petits contentieux, des joueurs qui aiment bien envoyer les pieds sur notre ami brésilien. Au final, c'est peut-être un mal pour un bien.
Ouais, Paris a des contentieux avec toutes les autres équipes.
Oui, t'as raison.
Ouais, Strasbourg en particulier.
Montpellier, Strasbourg, Nice, le Lyon, voilà, c'est
Mais là, c'est mieux, au moins, il n'y a pas de blessure. Là, on a vu dans ce match de Dortmund, Haaland qui a pris un coup sur la cheville. Tout le monde s'est dit, ah tiens, s'il pouvait être absent pour le PSG. Mais non.
Ça va bien, j'espère.
Non, c'est vrai, il n'y a pas de blessure.
Jonathan, c'est le premier supporter de Dortmund.
Avant le match aller, Dortmund jouait avec son 11 titulaire.
Ouais.
Et on se posait pas la question, quoi. Paris, on a fait tourner, on a vu le match aller, on n'a pas existé, quoi.
C'est un très bon point, ça, Dominique.
Il y a Bolo Bolo qui nous dit sur Direct Studio, clonons Klopp et donnons-lui les pleins pouvoirs au PSG, quoi.
Non, c'est un fan de Moscato.
Ouais, mais c'est pareil, hein. Klopp, il arrive et il joue au bowling pareil, hein. C'est toi, tu prends tes affaires.
Attends, vas-y, Dominique et Jonathan.
Oh ben, de toute façon, il faut trouver un entraîneur pour Paris qui sache mener les hommes, quoi. Faut arrêter que ce soit les joueurs qui décident de tout, des fêtes.
Vous me faites tous rire là. Parce que rappelez-vous, en fait, quand Thomas Tuchel il arrive, on dit alors lui avec lui. Rappelez-vous, il avait fait la tournée des boîtes de nuit parisiennes.
On disait,
il va mettre tout ça au carré. Il retirait le ketchup des placards de ses joueurs à Dortmund. Il est arrivé et il s'est transformé en petit.
Il s'est liquéfié comme Emery. Il s'est
liquéfié chat, comme. Voilà. On disait que c'était un lion qui arrivait. Il s'est transformé en petit chat de gouttière. C'est quand même triste.
Ouais, moi j'ai cru quand il est arrivé. Mais là, je pense qu'avec Leonardo qui est revenu, un nouvel entraîneur, je pense que si Leonardo et l'entraîneur sont bien d'accord tous les deux, il peut y avoir du changement l'année prochaine.
Mais je pense que les gars, excuse-moi Kevin, il te faut aussi dans ce vestiaire-là un ou deux mecs qui disent bon les gars stop maintenant, on arrête de déconner, tu vois. Un relais de Leonardo ou de l'entraîneur, si c'est l'entraîneur, qu'il n'y a pas au PSG, un mec qui va dire stop les gars, non, ce soir personne ne sort. Mercredi, on a un énorme match. Terminé. Les vidéos sur les rien.
Même les joueurs suspendus.
Non, mais il y a des étoiles comme ça. Hein. Si c'est pas l'entraîneur d'autres grandes équipes européennes, ce sont des joueurs qui sont garants d'une discipline collective.
Non,
c'est
vrai.
Il y a un patron dans le vestiaire parisien.
Non, arrivera jamais. Et je vais vous dire, je vais ajouter quelque chose. C'est une petite théorie personnelle. Elle vaut ce qu'elle vaut. Je pense que Leonardo pourrait avoir plus d'emprise sur ce vestiaire-là, pourrait avoir plus ce rôle de gendarme, mais je pense qu'il ne le fait pas. Et je pense qu'il ne le fait pas sciemment, tout simplement parce qu'il n'a pas envie de garder Thomas Tuchel. Que pour lui, si Thomas Tuchel réussit, tant mieux. Mais que quoi qu'il arrive, il a déjà un nom en tête pour la saison prochaine. Et que pour lui, quand il est arrivé cet été en disant que c'était, entre guillemets, une saison de transition, je pense qu'il le pensait vraiment.
C'est qui le nom alors?
Bah, c'est Allegri.
Forcément.
Tu sais ce que j'aurais aimé pour Leonardo? J'aurais aimé que tous les contrats du Paris Saint-Germain expire comme celui de Thiago Silva là, à la fin de cette saison. Et là, on aurait
vu. Kevin, fair play financier, t'es obligé de. Ça aurait été dramatique.
Oui, non, mais d'accord. Mais là, on aurait vraiment vu quels sont les joueurs que Leonardo a vraiment envie de garder dans cet effectif.
Voilà. Merci, Dominique.
Il y en a pas beaucoup, à mon avis.
Et oui, on est d'accord.
T'as raison. Merci,
Dominique.
De rien, bonne continuation à vous.
Merci Dominique. Bon, évidemment, je rappelle également qu'on n'est pas en train de souhaiter l'élimination du PSG. Certainement pas. Faut comprendre que nous, on a quand même envie de prolonger l'expérience Ligue des Champions. Avec Lyon peut-être. Et avec Paris aussi. Bien sûr. Je parle de moi, Jonathan. Là, c'est lourd. Je parle de moi, je parle pas de toi, d'accord? Je parle d'RMC. Tu n'es que de passage. Tu bosses deux jours par semaine.
Mais bien sûr. Mais en vrai, c'est juste que.
Il n'y a rien de catastrophique.
Non.
Voilà. Pour beaucoup, ils sont encore favoris pour la qualif.
Oui.
Je suis pas sûr qu'on verra. Même Paulo Breitner, qu'on dans un instant nous dira ça, sûrement.
Ils ont perdu que 2-1 à l'extérieur. La stat, elle est quand même en leur faveur. Donc, oui. Après, il y a quand même des raisons de s'inquiéter. Parce que quand on fait tout le paysage, on a parlé de Marquinhos, on a parlé de la défense, on a parlé du côté droit. Il y a quand même des petits points d'inquiétude.
Et l'avant-centre, qui joue?
Ouais, en plus, tu vois, il y a quand même pas mal de points d'interrogation. C'est ça qui fait qu'on a ce, mais qu'on soit bien clair, hein, parce que c'est vrai que, en fait, si on écoute un petit peu tout le monde, un petit peu l'ensemble des médias français, t'as l'impression que c'est vachement anxiogène. Non, le Paris Saint-Germain est quand même favori.
Voilà les gars. Tiens, je pensais, je voulais en parler rapidement de ça. C'est assez fou. Vous savez que j'ai une petite faiblesse pour les Girondins de Bordeaux et pour un homme d'un seul club, Marc Planus, qui a fait 400 matchs avec Bordeaux, tous ses matchs pro avec les Girondins. Anniversaire aujourd'hui. Donc, comme souvent les clubs le font pour les clubs, les joueurs qui ont marqué de leur empreinte leur passage, le CM des Girondins de Bordeaux poste une vidéo hommage à Marc Planus de 2 minutes 30. Il trouve rien de mieux que de mettre dans la vidéo que 3 fautes, 3 cartons rouges de Marc Planus. Voilà, c'est ça. Hommage. C'est beau, il va bien ce club. Hein.
Surtout
il est tenu ce club. Hein.
Surtout que Planus, c'est un défenseur.
Il a marqué un but somptueux face au Bayern de Munich voilà, en Ligue des Champions. Nico, il a marqué des buts.
C'est un défenseur élégant, qui était technique, voilà. Il avait une belle relance. Il n'était pas du tout un boucher.
Donc tu lui souhaites bon anniversaire avec une vidéo de 2 minutes 30, tu te mets que les cartons rouges. C'est incroyable.
À la rigueur, c'est Cyril.
Il n'y a pas que les cartons rouges, j'espère.
Il y a un but et 3 cartons rouges.
Bah, c'est nul.
C'est fou.
Non mais les gars, à la rigueur,
c'est fou. On parle du PSG, mais il y a Bordeaux aussi, les gars, en fait.
À la rigueur, tu fais une vidéo hommage à Cyril Roll, ouais, tu le mets en train de découper des gens. Mais Marc Planus, c'était pas ça. C'était un joueur qui était classe quand même.
La propreté, l'intelligence,
le message, c'est un joueur, un seul club, un seul maillot, des tacles, des titres, des buts, des cartons, quasiment 400 matchs avec les Girondins, une légende. Joyeux anniversaire, Marc Planus.
Au moins, ils l'ont pas oublié.
Non, ouais, mais bon. Ouais. Bon, bref. Dans un instant, les drôles d'âmes, bien sûr. Gros programme pour le Breitner pour nous parler de la victoire du Borussia Dortmund dans un gros match, hein, face à Mönchengladbach. Hein, tout de suite.
RMC. L'Afterfoot. Nicolas Jamain.
Avec Kevin Diaz et avec Jonathan McCarty, bien sûr. Tiens, messieurs, une info, on en parlait tout à l'heure très rapidement. Stéphane Ruffier, toujours pas dans le groupe, pour Saint-Etienne, qui recevra Bordeaux demain à 15h. Il a choisi 3 gardiens, Puel, mais toujours pas de Stéphane Ruffier. Bon. A priori, hein.
Compliqué,
c'est
ça,
fini pour lui. On rappelle que les dirigeants stéphanois attaquent son agent, bien sûr. La Bundesliga, que dis-je? Le Borussia, que dis-je? Polo Breitner, bonsoir.
Bonsoir mon cher Nicolas, bonsoir tout le monde.
C'était bizarre, bref. Polo, bah, comme d'hab, hein, depuis notre mission à Dortmund, depuis un mois et demi maintenant, on ouvre avec toi, parce que le Borussia
a joué. Moi, je ne sais plus qui est Leipzig en quart, tu vois.
T'as raison. Et oui, et c'est bien parti en plus. Hein.
Ou le Bayern. Ça.
Et ou le Bayern, mais on va dire, on va attendre les demi-finales pour le Bayern.
T'es bien confiant. Borussia, c'était le match de l'après-midi. Un choc, hein, Polo, on est d'accord. Entre deux équipes qui jouent une place en Ligue des Champions. Une affiche.
Bah oui, évidemment, c'était une belle affiche. Malheureusement, je trouve que le match n'a pas porté tous les espoirs que l'on espérait. Je crois vraiment qu'il y a un syndrome Dortmund pour le Borussia Mönchengladbach. C'est leur 11e défaite à la suite, toute compétition confondue, contre le Borussia Dortmund. Que ce soit un grand Borussia ou le petit. Et tu vois ce qui s'est passé en première mi-temps. La passe mal assurée de Stindl, qui était pourtant en super forme. Le Zakaria qui se blesse dans son choc avec son propre gardien et qui est forcé de sortir. Le pénalty qui n'est pas sifflé par l'arbitre sur la faute de Zagadou sur Hoffman. Il y a une première mi-temps que je trouve extrêmement moyenne, à l'image d'ailleurs du public qui n'a pas poussé son équipe comme on l'espérait. Le Borussia Park, c'est quand même un des stades les plus chauds d'Allemagne et on a l'impression qu'il y avait une forme de fébrilité par rapport au Borussia Dortmund, qu'on a trouvé d'ailleurs une fois de plus beaucoup plus calculateur qu'avant, beaucoup moins flamboyant, je trouve, mais qui ne se projette plus comme. On a l'impression qu'en fait, le huitième de finale de PSG a fait comprendre au Borussia Dortmund qu'on ne peut plus jouer à 6-7 devant, à se projeter dans tous les sens. Donc je trouve que c'est beaucoup moins flamboyant. Mais bon, d'un autre côté, ça amène des résultats.
Bah oui, c'est une tendance qui se confirme, Polo. Hein. Ça fait 3 semaines que tu nous le dis, effectivement. Ouais. Plus de prudence, de pragmatisme, mais moins de romantisme, j'allais dire. Moins de flamboyance.
Mais tu sais, Polo, c'est peut-être cette fameuse expérience européenne. Souvent, on dit, ah oui, mais cette équipe, elle a montré son expérience européenne. Tu sais que dans ces gros matchs qui ont été bien préparés, eh bien souvent, on s'en sert ensuite dans le championnat. Ce qui a marché en tout cas. Et toi, t'es toujours très confiant pour le PSG face à Dortmund. Mais moi, je regarde encore cette équipe de Dortmund ce soir. Je trouve quand même c'est quand même une très très grosse écurie européenne depuis quelques mois, depuis quelques semaines. Et il y a un joueur. Tu disais qu'ils sont un peu plus, donc ils restent en place et tout. Il y a un joueur qui reste pas du tout en place, qui a marqué ce soir et que je trouve moi personnellement, et je vais avoir ton avis, exceptionnel. C'est un certain Hakimi.
Alors, Hakimi, lui, c'est extraordinaire parce qu'en fait, on me le vend au départ comme un arrière droit classique. Donc, évidemment, il débarque du Real Madrid, il est prêté pendant 2 ans. Donc, on se dit grand classique en fait de ces joueurs du Real qui viennent en Bundesliga pour prendre de l'expérience et s'aguerrir un petit peu. Et il est extraordinaire. Et on passe dans une défense à 3. Sauf que, alors, il est très offensif, mais par contre, défensivement, c'est pas forcément ça. Et c'est vrai que sur le côté droit, il fait des choses assez extraordinaires, notamment quand il combine avec Sancho ou parfois avec Thorgan Hazard. Mais si tu veux, moi, c'est toujours pareil. C'est est-ce qu'il fait les bons choix au bon moment? Je pense qu'il va devenir un des meilleurs joueurs à son poste. Le problème, faut-il encore définir son poste? Parce que moi, je ne le définis pas aujourd'hui comme un véritable arrière droit. Ou alors, faut que ça compense derrière d'une façon très importante. Donc, je suis d'accord avec toi. Je suis aussi d'accord sur ce côté expérience, calculateur, etc. Je pense en effet que le Borussia Dortmund est une très très belle équipe européenne, pas la plus pas la plus douée, pas la plus d'expérience, mais peut-être à certains postes, il y a des joueurs qui vont faire des très très belles carrières. Évidemment, on pense à Sancho, à Hollande ou d'autres, ou qui l'ont fait. Il manque quand même des joueurs comme Marco Reus, etc. Donc, on sent que l'équilibre, c'est un petit peu dommage. Moi, j'aurais vraiment voulu avoir Marco Reus au parc. Maintenant, si tu veux, c'est le problème du niveau de jeu moyen. C'est-à-dire, oui, ok, ça, en ce moment, ça va bien, ça marche. Oui, la victoire, évidemment, à l'extérieur est très très importante pour le Borussia Dortmund, parce qu'on parlait surtout d'un Borussia Dortmund exceptionnel à domicile. Toujours aucune défaite à domicile, toute compétition confondue quand même. Puis il y a pas n'importe qui est passé. Hein. Il y a l'Inter, le Barça, le PSG, etc. Donc c'est bien pour le mental, c'est bien pour le moral de l'équipe. D'ailleurs, Mats Hummels a fait une déclaration qui dit nous, tout ce qu'on veut, c'est arriver le plus près possible pour la 28e journée, qui sera un choc, évidemment, Dortmund contre le Bayern, qui pourrait d'ailleurs être décisif pour le titre, parce que la grande leçon quand même de cette victoire, c'est que aussi bien, alors, autant Mönchengladbach, c'est fini pour le titre 2020, autant le Borussia Dortmund, c'est plus que relancé pour le titre 2020.
Ils sont à un point du Bayern, qui joue demain contre Augsbourg.
Demain, le Bayern va l'emporter, donc il est à 4 points, mais encore une fois, ils doivent se déplacer à la 28e journée à Dortmund, donc ce sera un choc, un véritable choc, peut-être pas décisif pour le titre, mais en tout cas, qui va donner des expériences, qui va donner des informations très importantes. Et surtout, ils l'ont emporté à l'extérieur. Ouais. Et ça, depuis le début de la saison, on n'arrête pas de dire que le Dortmund à l'extérieur, c'est pas la même chose.
C'est la deuxième fois d'affilée, d'ailleurs, Polo.
C'est la deuxième fois. Alors, à Brême, ok, on va dire que c'est bon, c'est bien, parce que c'est, de toute façon, c'est opération porte ouverte cette année à Brême. Mais, l'emporter à Mönchengladbach, c'est une sacrée performance. Mais n'oublions pas qu'il y a que Leipzig qui l'avait fait.
Justement, Polo, tu nous disais que Dortmund aurait des difficultés au Parc des Princes. C'était avant justement cette petite séquence. Et là, est-ce que ton avis a évolué depuis? Est-ce que tu les trouves peut-être un petit peu plus solides, un petit peu plus organisés au milieu de terrain? Est-ce que tu réévalues leurs chances au Parc des Princes en prenant en compte le résultat du match aller?
Alors bon, il y a les absents au parc qu'il faut prendre en compte. Il y a aussi, on l'espère, qu'on jouera devant un fabuleux public quand même. Ça, c'est un petit peu compliqué tout ça, parce que la sonorité du parc, c'est peut-être l'une des meilleures en Europe, si ce n'est pas la meilleure en Europe. Donc c'est quand même quelque chose qui me semble important. Maintenant, je vois aussi toujours des faiblesses. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que le fait d'être passé en défense à 3 ne signifie pas que parfois il n'y a pas des oublis, des largesses, etc., etc. Et alors qu'on voit le niveau de Neymar et Mbappé, ça peut claquer n'importe quand. Donc ça, à ce niveau-là, je reste persuadé que le PSG peut passer. Maintenant, encore une fois, la confiance, elle est là. C'est-à-dire que si Dortmund ne passe pas en huitième, on dira, enfin, je vais résumer ça d'une autre façon. Le PSG s'est mis une telle pression qu'il doit passer. Le Dortmund peut passer. Ouais. Et c'est pas du tout la même chose.
Mais bien sûr.
Voilà, pardon.
Tu réévalues leur chance à la hausse ou pas alors par rapport à
il y a 3 semaines, bon, Paris passera, il n'y a pas de problème.
Pas plus que
moi,
ça.
Je pense que Paris va passer aussi.
Attends, tu parlais de sonorité là du Parc des Princes. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Effectivement, l'acoustique, l'ambiance, l'acoustique, la verticalité.
L'acoustique du Parc des Princes, c'est un truc.
Mais en quoi ça peut avoir une incidence?
Ah non, mais c'est l'ambiance, c'est quelque chose que j'ai
rarement. Les mecs en Allemagne,
j'ai fait quelques stades. Non, mais c'est pas une question de nombre, c'est la façon dont le parc a été construit qui fait qu'il y a une sonorité qui est très spéciale et j'ai rarement connu des choses comme
ça. Je pense pas que ça va impressionner les joueurs de Dortmund.
Est-ce que je peux être tout à fait trancher le débat de manière tout à fait objective? Il faut reconnaître que, du moins en Ligue 1, je dois reconnaître que le Parc des Princes, de la grande ambiance, c'est-à-dire avant le plan Le Prou, c'était la plus grosse ambiance dans laquelle j'ai jamais été. Et même le stade Vélodrome en Fion compris, parce que le Vélodrome, le tour, on l'a eu très récemment.
Il est très ouvert, le Vélodrome aussi.
Ouais. Mais le parc, c'est vrai que c'est impressionnant. Quand les supporters sont chauds, c'est une ambiance de malade mental.
Bon, Polo, pour la compo mercredi soir, là, on rappelle que Sancho était sur le banc, c'est pour le faire souffler.
Non, en fait, il a été. Enfin, Lucien Favre l'a fait un petit peu souffler, c'est vrai, mais parce qu'il a dit qu'il pouvait très bien jouer. Mais en fait, il a été malade. Vous savez qu'il y a plein de petits virus, sans parler de celui qu'on parle partout aujourd'hui. Il y a des petites maladies au mois de février-mars classiques. Il était malade, il n'était pas bien mardi et mercredi, il s'est pas entraîné, donc il n'a pas fait jouer. Mais il pouvait être titulaire. On va avoir la même compo, sauf que je pense que Brand sera sur le banc et que Sancho prendra le côté droit.
Sancho à droite, Hollande devant et Thorgan Hazard à gauche.
Hollande qui a sûrement fait son plus mauvais match sous les maillots du Borussia Dortmund.
Faut bien que ça arrive, oui.
Ce garçon est humain.
Mais oui, bon, c'est aussi, oui, c'est pas un mutant quand même. Mais c'est rassurant quelque part. Effectivement, pour le Borussia, mercredi soir, bien sûr, 20h45 au Parc des Princes, face au Paris Saint-Germain. Un mot de Leipzig qui a coincé à Wolfsburg quand même, Polo.
Oui, alors c'est coincé. Moi, j'avais prévu un match entre les deux équipes, donc c'est un petit peu dur de dire qu'ils ont coincé là-bas. Ce qui est sûr, c'est que alors. Pareil, comme Borussia Dortmund, défensivement, ça, ils ont fait des progrès extraordinaires, comme ils ont pas craqué à Tottenham, comme ils craquent pas contre le Bayern de Munich, et ben là, ils ont pas craqué contre Wolfsburg, qui a vraiment mis une grosse pression en première mi-temps. Et par contre, ils sont un peu moins bien dans la finition, à l'image de ce qui s'est passé le week-end dernier contre Leverkusen. Ouais. Donc, voilà. Werner aussi, pareil, a des petits pépins, il a reçu un coup aussi lors du dernier match. Il sera titulaire contre Tottenham, et je pense aussi que Mukiele le sera aussi dans le Dortmund.
Il passe là, mardi soir, match retour Leipzig-Tottenham, 1-0 à l'aller pour Leipzig.
Je pense que ça sera beaucoup plus compliqué parce que j'ai l'impression que Leipzig n'est pas au mieux. En fait. Ils sont un peu moins bien, notamment défensivement. Ça leur demande beaucoup d'efforts, en fait. Par contre, ce qui est très bien, c'est qu'ils défendent de mieux en mieux. Et ça, c'est important pour aller loin. Mais enfin, ils sont quand même en situation favorable.
Et je te rassure, Polo, mais Tottenham n'est pas au mieux non plus.
Roi des matchs nuls. Encore aujourd'hui, on en parlera tout à l'heure avec Julien Laurence. Merci, Polo.
Salut, Polo.
Salut, bonne semaine. Évidemment, jusqu'au match, bien sûr, dans l'after PSG Borussia. J'accueille Monsieur Frédéric Hermel. Bonsoir, Frédéric.
Bonsoir.
C'est bizarre, non,
juste en cause. Bah oui, parce que
on t'appelle jamais Frédéric, hein.
Si, ma mère quand elle est en colère.
Ah, alors, voilà.
Bonsoir, Frédéric.
Ça commence, mon chéri. Après c'est Fred, Frédéric. Alors quand c'est Frédéric Hermel, c'est que vraiment il y a quelque chose qui va pas.
Mais t'as raison.
Bonsoir, quoi. Frédéric.
C'est
Hermel.
Comme Nicolas.
Ça, ouais, mais sauf. Hey, Jonathan, t'es pas ma mère.
Jusqu'à preuve du contraire, non.
Donc,
hein.
donc l'effet est quand même un peu plus limité.
Bon,
voilà, Ticos.
Salut, comment ça va? Salut, bon, ça va le coronavirus en Espagne, c'est comment là? Ah, vite fait. Tu veux m'en parler? Zidane en a parlé, hein.
Oui, parce que je lui ai posé la question, mais en fait, il y a. Je suis un peu. Il y a beaucoup de cas quand même. Mais comment dire? On n'est pas un problème politique, mais je ne fais pas une confiance absolue à ce gouvernement.
Ah oui?
C'est pas la France, l'Espagne. Hein,
oui, je sais.
Donc.
Bah écoute.
Donc, bon. J'ai pas l'impression, le sentiment. Il n'y a pas d'alarme ici.
Ouais.
Mais parce qu'on a l'impression que. C'est pas sûr que le gouvernement fasse tout ce qu'il faille.
Enfin, je sais pas. D'accord. Bon, on va développer ça tout à l'heure avec toi.
Je suis un petit peu.
Circonspect.
C'est-à-dire, je sais pas trop parce qu'il y a le sentiment qu'il se passe pas grand chose, alors qu'il y a quand même plusieurs centaines de gens.
Infectés.
Qui sont infectés. Il y a notamment ce journaliste qui est un de mes vieux copains, qui est le journaliste qui a été infecté quand il était infecté et affecté. On dit affecté en français aussi, bien sûr.
Ouais,
infecté,
bien sûr.
C'est de l'espagnol, mais affecté. Parce qu'il était, il est à Valence et il faisait partie de ceux qui suivaient Valence à Milan pour le match contre l'Atalanta.
Ah ouais, mince.
Et il est revenu malade, donc il est toujours à l'hôpital, ça va. Hein, je lui ai envoyé un petit message et ça va, mais voilà, donc.
Après, c'est pas plus mal, Fredo, si l'Espagne ne vire pas la panique comme.
Non, mais il faut quand même aussi prendre
le problème.
Il y a un principe de précaution quand même.
Voilà,
on n'a pas le sentiment qu'ici il y a. Alors, il y a quand même le ministre de la Santé ou le directeur général de santé, je ne sais pas exactement, mais voilà, on sait déjà par exemple qu'il y a des matchs qui ne vont pas avoir lieu. Ah. Voilà, donc,
bon, on en parlera avec déjà, toi, tu as parlé à Zidane.
Reta fait Inter, c'est logique. Ça sera à huis clos, pardon. Ça sera à huis clos, sans public. On a aussi un doute. Sur le Barça-Naples, mais a priori ça devrait pouvoir se jouer avec du public, mais il y a encore des doutes parce que c'est dans 10 jours, donc celui-là, voilà, donc on se pose des questions. Alors, Valence, Atalanta, bien entendu, là c'est évident que ça sera à huis clos, ce qui pose un gros problème pour Valence qui doit faire une remontada sans public, c'est un peu plus.
Alors compliqué. Fred. Tout à l'heure, on écoutera Zidane que tu as interrogé là-dessus, justement, qui t'a répondu. Parlons du match aujourd'hui. Barça, Real Sociedad.
C'était
1-0, multi-pénalty, 81e.
Ouais. Le Barça est leader ce soir avec 2 points d'avance, puisque le Real joue demain.
Normal, ouais. Mais il y a un mais non.
Mais personne n'est rassuré au Barça après cette rencontre, quoi. Enfin, c'est. Ce qui est de la Real Sociedad avec un petit peu plus d'efficacité devant, aurait sûrement remporté cette rencontre. C'est vrai que Messi avait l'air un petit peu mieux physiquement, mais on l'a senti quand même encore un peu nerveux. Ça fait 3 matchs de suite où il prend un jaune. Aujourd'hui, c'était un jaune orange quand même, hein. Ce qui est assez rare chez lui, il a quand même frisé l'élimination. Le penalty, c'est le VAR, on va dire qu'il y a, Il y a un gros scandale en Espagne autour de ce penalty parce que vu côté madrilène, enfin, en tout cas madridiste, il y a certains doutes. Ça fait un peu épaule, enfin voilà. Donc et puis il y avait peut-être un hors-jeu de Vidal au départ de l'action qui est un coup franc. Mais bon, le ballon ayant touché la tête d'un joueur de la Real Sociedad. Enfin bref, le Barça n'a pas survolé cette rencontre, loin de là.
Ouais.
Donc on se retient qu'une chose, c'est la victoire ce soir. Mais on peut pas dire que le Barça s'est rassuré une semaine après son très très mauvais match à Madrid.
Fred.
Moi simplement, ce que je disais la semaine dernière, quand on me disait le Real c'était bien, je dis enfin le Real oui a gagné, mais face à une équipe quand même pas bien du tout, donc
à mesurer, à relativiser.
Ouais. Et Fred, j'ai pas de mentir, j'ai pas vu le Barça un nombre de fois impressionnant cette saison, mais là je suis tombé sur le match, écoute, j'ai regardé, je sais pas si c'est une impression qui est juste due à ce match-là et au match contre le du Real Madrid, mais j'ai trouvé que le milieu de terrain, je l'ai trouvé ça assez décevant. J'ai trouvé les prestations de Frankie de Jong, désolé Kevin, mais pas forcément, voilà, un peu perdu. On est loin d'avoir le joueur étincelant qu'on avait l'année dernière. Busquets ultra vieilli, Rakitic qui a ralenti le jeu, c'est les trois en fait. J'ai l'impression que ils annihilent tous les mouvements offensifs de leur équipe.
Ouais, et puis devant, enfin, celui qui a été le meilleur, c'est Braithwaite.
C'est
celui qui avait parce qu'il court vite, il a eu une belle occasion.
Il est volontaire.
Il est volontaire, quoi, il en veut.
Ouais.
Et j'ai retweeté tout à l'heure un tweet de quelqu'un qu'on peut pas soupçonner d'être en dit Barça. Bon, c'est un vieux copain, c'est l'ancien correspondant du Mundo Deportivo, grand journal très proche du Barça, de Edita Barcelone.
Ouais.
Il est à Madrid, on est très potes. Et lui, c'est un grand supporter du Barça.
T'as des potes barcelonais, Fred.
Comment?
Non, je rigolais, je disais, t'as des potes barcelonais.
Bien sûr. Tu sais, il y a une époque, il y a très longtemps, j'étais mieux reçu au Barça qu'au Real. Comme quoi. Hein,
ouais.
Et donc, Rouger faisait un tweet en disant, c'est quand même très significatif et problématique que, alors qu'il n'y a que depuis 15 jours, on a l'impression que les joueurs du Barça cherchent plus Braithwaite que Griezmann.
Et
c'est vrai que ce soir.
Mais tu m'aurais dit ça il y a deux mois et demi avant qu'il ne pas deux mois. Vous savez quoi, les gars, Braithwaite va signer au Barça.
Incroyable.
Et Messi va plus chercher Braithwaite que Griezmann.
Non, je ne parlais pas de Messi.
Oui, mais de manière générale, l'équipe.
Et Frankie de Jong, c'est sa saison, tu la juges comment jusqu'à présent?
Mais il trouve pas sa place encore. Après, il vient d'arriver aussi, hein, faut pas non plus
il est
d'arriver cet été, mais
oui,
c'est vrai qu'on n'a pas l'impression de qu'il ait vraiment trouvé sa place encore, mais Busquets est vieillissant, tu l'as dit, Rakitic était quand même quelqu'un qui était quasiment proche de la porte du temps de Valverde, il rejoue là maintenant. Voilà, il y a quand même beaucoup de doutes autour du Barça, même si je vous dis ça, Messi qui était vraiment pas bien du tout physiquement contre le Real et à Naples. À Naples, il a pas joué quasiment.
Et puis,
ce soir, il avait un peu plus le coup de rein quand même.
Ce que tu dis sur Busquets, pour moi, c'est très juste. J'ai trouvé vraiment à côté de ses pompes. Et Kevin, je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi, Frankie de Jong, il l'utilise très mal, quoi. Ils le font jouer beaucoup trop. Alors que c'est lui qui devrait jouer à la place de Busquets, quoi.
J'ai vu beaucoup de débats sur Frankie de Jong. Faut savoir que, alors je l'ai déjà dit pour Dolberg, mais j'ai vu beaucoup de matchs de l'Ajax avec Frankie de Jong. Tu sais où est-ce qu'il a été le meilleur, Fred et Jonathan?
Central.
Défenseur central.
Eh oui.
Quand il jouait dans un 3-4-3 où il était défenseur central, il décrochait à côté de Matthijs de Ligt et c'était exceptionnel en championnat. Tu sais, il faisait des qualifs. Tu sais, comme à l'école, Fred, il récupérait le ballon du gardien. Il était capable de traverser 70 mètres pour donner un ballon à Ziyech, tu vois. Il faisait des trucs exceptionnels et en effet, il est bien meilleur quand il est lancé. Mais aujourd'hui, il est clairement barré par la légende.
Voilà pour le Barça.
Fred, encore un petit truc, simplement pour donner des opinions de Barcelone. Hein, voilà, David Sanchez, grand journaliste pro Barcelone, une des grandes stars. Le Barça d'aujourd'hui ne peut pas éliminer Naples.
Ah ouais.
Non, mais je vous dis l'impression. Moi, pour vous dire, pour que ce soit pas simplement le ressenti de Madrid.
Je donne
des ressentis de Barcelone.
Un partout
de
à l'aller, mercredi 18 mars, match retour.
Voilà. Ouais. Donc, ça ira mieux peut-être d'ici là. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a une vraie inquiétude à Barcelone sur le niveau.
Il va falloir que Naples, soit gagne, soit fasse deux partout au Camp Nou. C'est pas gagné
pas
non plus. Ça va être
total,
dur.
Hein,
un mot quand même de l'Atlético de Madrid, Fred, face à Séville. Deux partout.
C'était pas mal le match.
Avant Liverpool, on rappelle
surtout la première période était vraiment très bien.
Il y a un gros Liverpool, Atlético. On rappelle que Liverpool a été battu 1-0 à l'aller au Wanda. Match retour mercredi.
Et avec un Liverpool qui, je vous le rappelle aussi, n'avait pas fait un seul tir cadré en 90 minutes.
C'est vrai.
L'Atlético est. Alors, vous vous souvenez, il y a deux mois, on se disait cet Atlético. Il y a même un mois, on se disait, de toute façon, il va se faire bouffer par Liverpool. Mais c'est fou l'effet positif qu'a eu cette victoire contre les Anglais.
Tu me disais,
qui a joué, tu sais très bien que dans la tête, le football, ça se joue aussi dans la tête. Hein.
Mais oui.
sur l'aspect psychologique et dans animique. Et c'est vrai que l'Atlético aujourd'hui, même s'il fait match nul et que c'est pas bon dans la course pour la qualification pour la Ligue des Champions de la saison prochaine, pour terminer dans les quatre premiers, c'est quand même Séville en face. La première période était vraiment de toute beauté. Bon, il y a eu des pénaltys, etc. Mais enfin, j'ai quand même le sentiment qu'il y a João Félix qui fait un bon match, vraiment un bon match, qu'il y a Diego Costa qui rentre, etc. Que l'Atlético me semble aujourd'hui mieux armé qu'il ne l'avait l'air avant le match contre Liverpool.
Ce match, il a fait du bien à l'Atlético, il a fait un peu de mal à Liverpool.
Ouais. Bah oui, bah voilà, parce qu'il y a deux tendances. L'Atlético a quand même un très bon résultat. 1-0 à domicile.
C'est très bien.
Franchement, en Europe,
surtout quand c'est l'Atlético
en face.
Surtout quand c'est l'Atlético.
Simplement, je suis pas en train de dire que l'Atlético est favori contre Liverpool. C'est pas du tout le cas. Mais simplement, cette équipe qui semblait usée, désespérée, s'est refait la cerise, comme on dit en bon français. Et donc, c'est une équipe qui va bien se battre mercredi à Liverpool. Oui.
Allez, Fred, dis-nous juste parce que je
sais. Alors, Jonathan, nous le nom des buteurs. Tape du pied là. Il faut qu'on parle de Campos.
Non, je voulais juste qu'il donne le nom des buteurs. C'est tout.
De ceux qui du des buteurs.
Mais Fred, il dit que Ocampos fait une excellente saison. Il le dit, Fred.
C'est considéré. Ah oui, non, mais Ocampos. Ah oui, ah, tu veux, parce que tu veux parler d'Ocampos.
Oui, oui, parce qu'il joue à Marseille, donc forcément.
Le prisme marseillais.
Et voilà, c'est ça. Voilà, tu vois, un peu primaire.
Tu sais, il y a l'expression en espagnol qui dit qu'un aloco con su tema, chaque fou a son thème de prédilection.
Oui.
Bon, bah, le tien, on sait ce que c'est.
Le tien aussi, Fred, d'ailleurs, on sait.
Le Racing Club de Lens, même si c'est...
Arrête
Il est bon, ce Fredo.
Fred, mais je justement, on y vient. Je continue à vivre très mal le départ de Philippe.
Voilà, oui, c'est déjà dit. Betis Real, demain 21h, le Real pour reprendre la tête devant le Barça. Zizou est un con, tu l'as vu aujourd'hui.
Oui, il était détendu, etc. Mais je voulais quand même lui poser une question sur le coronavirus, parce que moi, sincèrement, les questions polémiques, il y a les collègues espagnols qui sont là pour ça. Et moi, j'aime bien quand il parle foot, Zizou, et qu'il parle préparation. Parce que Zizou, c'est un entraîneur italien. C'est quelqu'un qui planifie énormément sa saison, énormément. C'est quasiment à la minute près, hein, tout ce qui se passe dans une saison. Et je lui ai demandé, on va l'écouter, en quoi le coronavirus et le fait qu'il y ait des matchs qui puissent être reportés, eh ben, c'est gênant dans un travail d'entraîneur. On va écouter Zizou.
C'est très négatif. On ne sait pas exactement ce qui se passe, mais de toute façon, c'est pour ça que c'est bien d'avoir des informations par les médicaux, par les gens qui sont compétents. Pour notre organisation, de savoir que tu peux éventuellement ne pas jouer un match, c'est pas bon du tout. Ça arrive en Italie, ça arrive en France, et c'est ce qui peut arriver en Espagne. Mais par contre, on se plie à ce qu'on nous dit quand même.
Fred.
Oui, parce qu'il explique aussi qu'il y a des charges de travail, il y a des entraînements très spécifiques qui sont prévus, et quand un match est décalé, ça a une influence. Alors, à aucun moment, Zizou dit qu'il ne faut pas prendre de précautions. Non, il faut bien prendre toutes les précautions. Mais simplement, moi, je voulais savoir en quoi ça pouvait bouleverser, parce que ça m'intéresse aussi par rapport au Paris Saint-Germain. Et je pense que ça peut vous intéresser. Non, le fait que le Paris Saint-Germain n'ait pas joué à Strasbourg, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle avant Dortmund, parce que Tourelle avait prévu des trucs qui ont été bousculés, bien entendu.
Exactement. On a fait des heures et des heures de débat, t'imagines bien là-dessus. Bien sûr. Merci, donc, Fred.
C'est pour ça que je pense que c'est intéressant d'avoir l'avis de
l'extérieur. Effectivement.
Et qui s'explique toujours très bien quand on lui pose des questions sur le foot, ce qui n'est pas tout le temps le cas en Espagne. Mais bon, je ne vais pas critiquer les collègues espagnols. Quoi. On cherche un peu la
petite tête. Fais gaffe. Passé 20 ans dans ce pays, donc fais gaffe.
D'après mes points retraite, 14.
tu rentres en France, c'est sûr, derrière?
Mais ma retraite, ça sera dans le Pas-de-Calais, mon ami, bien sûr.
Magnifique, très beau. Merci Fred.
Merci les amis.
Excellent Fred, à toi. Bye bye.
Et pour terminer sur le Betis Real, attention, c'est jamais facile d'aller jouer au Betis pour n'importe quelle équipe.
Bien sûr.
Et donc le Real sera en danger demain soir, mais la Liga, c'est comme ça, la meilleure Liga du monde. Hein.
On en reparle à la fin de la saison.
Tous les week-ends.
Oui, bah, c'est mieux que la Ligue. Hein.
Non, stop, les gars.
Canaloco con su tema.
Adios, Fred. Excellente soirée. À toi, Julien Laurent, ça arrive à parler de Liverpool dans un instant, bien sûr. Et Simone Rovera pour le Juve Inter demain. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit.
L'After Foot. Nicolas Jama.
Avec Kevin Diaz, avec Jonathan Macardi. Et j'accueille Simone Rovera. Bonsoir Simone.
Ciao, buonasera, bonsoir.
Salut, tu es à la maison?
Je suis à la maison. Je suis chez mes parents en vrai.
Ils n'ont plus le droit de sortir. C'est où tes parents? C'est où? C'est Turin? C'est où?
C'est un peu au sud de Turin, mais c'est en Piémonte. Donc, comme j'avais. Les écoles sont fermées, c'était plusieurs jours que ma fille est ici. J'ai profité pour voir un peu. Comment elle allait, la petite.
Okay, arrête de jouer avec ta gourmette également, parce que là, il y a un petit son bizarre. C'est quoi ce son?
Bien sûr.
Voilà. Simone, t'as fait quoi ton samedi? Il n'y a pas de match. C'est long un samedi sans match.
Oui, c'est étrange, ça profite, tu peux regarder des matchs d'autres championnats. Il n'y avait pas des conférences de presse. La chose très incroyable, c'est de voir les entraîneurs de Inter et Juve qui parlent aux médias du club, donc des questions posées par les clubs même. Donc tu t'informes, tu prends des renseignements. Mais c'était vraiment un week-end, un début de week-end étrange. Je suis resté à la maison.
Avant demain, plusieurs matchs, tous à huis clos, hein, bien sûr, on le sait, jusqu'au début avril, dont le Juve Inter. Tiens, il paraît que le ministre des Sports italien a demandé la retransmission en clair de ce match, puisqu'il sera à huis clos.
Oui, c'est ça. Même il y a eu un dernier refus, on peut dire, ce soir de la Ligue italienne. Et l'histoire est très simple. Au-delà de la demande de voir du football en clair, aujourd'hui, ou quand même ce soir, voire demain matin, on devrait avoir un nouveau décret du président du Conseil des ministres qui va élargir la zone rouge à toute la Lombardie et à 11 provinces italiennes. Donc il y aura même une interdiction de rentrer et sortir dans cette zone. Tous les lieux publics comme pubs, des bars vont être fermés. Donc il y a même la question de où aller voir les matchs, ou éviter des rassemblements. Et c'est pour ça que les ministres avaient demandé de donner la possibilité à tout le monde de voir des matchs de football en clair. La Ligue italienne a dit qu'il n'y a pas des possibilités technologiques et légales pour mettre en œuvre tout ça. On sait très bien l'histoire des contrats signés par les pays TV, et ça serait compliqué en quelques heures de tout changer pour diffuser en clair des événements sportifs.
J'ai vu, Simonet, que le président de l'Inter a traité de clown le patron de la Ligue italienne. Pourquoi ?
Bah, écoute, l'histoire du clown, c'est très simple. C'est un peu un dérapage pour moi à niveau du contenu du président Zhang sur les réseaux sociaux. Bref, il a dit que les présidents de la Ligue, la semaine dernière, aujourd'hui, ça fait presque rigoler penser à cette situation de la semaine dernière, quand on est en train de vivre quelque chose de beaucoup plus grave aujourd'hui. Mais les présidents de la Ligue italienne avaient tout fait pour faire jouer les matchs un jour plus tard au Juventus Stadium. Un jour plus tard, la semaine dernière, il y aurait eu la possibilité de jouer avec des spectateurs. Un jour plus tôt, ce n'était pas possible. Et les présidents Zhang disaient, vous êtes en train de jouer avec la santé des personnes. Les foot doit être en deuxième plan, les accords économiques aussi. La chose plus importante, c'est la santé. Et après, on peut débattre sur la façon, sur les mots utilisés du président Zhang. Aujourd'hui, encore plus ce qui est en train de se passer dans le nord d'Italie, avec des régions qui vont être totalement fermées en entrée et en sortie, c'est sûr que le football risque d'être un peu les dernières des soucis des gens,
bien sûr,
qui racontent aussi qu'au moment actuel, il y a des foules qui sont en train, je sais pas des foules, mais j'ai lu ça sur un site d'actualité, beaucoup de gens qui sont en train de se rassembler autour des gares pour partir et quitter la Lombardie, vu qu'à partir de demain, il y a les risques qu'aucune personne puisse rentrer ou sortir en Lombardie. La question qu'on se pose, c'est pourquoi les footballeurs pourront le faire. Et attention, parce que le président de l'association italienne footballeur, Damiano Tommasi, ancien milieu de terrain très connu, a demandé d'arrêter les championnats italiens. Donc la situation peut évoluer pour moi dans les prochains jours, dans les prochaines heures, de façon inattendue, mais peut-être logique. On va voir, le nord d'Italie est vraiment dans une situation très compliquée, entre les nouveaux cas, les hôpitaux qui sont aux limites des personnes qui peuvent accueillir. Donc, je pense que demain, on va jouer.
Ouais.
Sur les futurs des prochaines semaines, je ne sais pas. Et on va découvrir probablement demain des nouvelles mesures du gouvernement très restrictives pour...
Et tu seras dans l'after demain, évidemment, pour revenir sur la journée, la 26e journée, avec que des reports de match, dont le Juve Inter à 20h45. Débrief dans l'after demain soir. Merci, Simonet.
Ciao.
Excellent soir à toi. Julien Laurent, c'est avec nous. Salut, Julien.
Salut Nico, salut à tous.
Salut Julien.
Julien, Liverpool a gagné. Bon, c'est pas fameux en ce moment, Liverpool, on le sait, mais Liverpool a gagné tout de même après avoir été mené au score par Bournemouth à domicile. Est-ce que tu confirmes que c'est toujours poussif, Liverpool ?
C'était poussif aujourd'hui, effectivement. Ils ont fait le strict minimum, j'ai trouvé, pour l'emporter. Il y a eu ce but, tu as raison, qui était entaché d'une faute au départ sur Joe Gomez de Callum Wilson, mais ils ont quand même encaissé ce but. Ils ont concédé des occasions aussi, notamment en seconde période. Même si Salah et Mané ont marqué et finalement ils l'ont emporté. Par exemple, James Milner a dû sauver un ballon sur sa ligne à 2-1. Encore en fin de match, il y a eu une énorme occasion pour Aiki et Wilson pour Bournemouth. Donc ça, c'est inquiétant, ça reste inquiétant. Le positif, c'est qu'ils ont gagné quand même. Mais Alisson est blessé, il sera encore blessé pendant quelques semaines. Robertson n'a pas joué aujourd'hui parce qu'il était aussi un petit peu touché. Il devrait revenir contre l'Atlético mercredi, mais peut-être pas à 100%. Et Jordan Henderson, qui manque toujours à cette équipe, va reprendre l'entraînement demain. Il pourrait être OK pour mercredi, mais on n'est pas encore sûr. Donc, il y a quand même encore des soucis pour Klopp et il s'attend à un match très compliqué contre l'Atlético, forcément.
Mais OK, battu encore un record. 22 victoires consécutives à domicile Liverpool aujourd'hui. Comment t'expliques ça, ce ralentissement de Liverpool? C'est de la fatigue psychologique, physique, c'est quoi?
Ouais, je pense qu'il y a un peu de ça, la fatigue psychologique, physique, la petite pause là, le petit winter break qu'on a eu en Angleterre, qui est inhabituel ici pour c'était la première fois. Je pense les a rouillés un petit peu, et après ils ont eu du mal à se remettre un petit peu dedans. En plus de ça, il y a eu des gros matchs. Aller à l'Atlético, c'est jamais facile. Il y a eu la défaite en Coupe d'Angleterre à Chelsea. Il y a eu cette défaite à Watford où ils ont vraiment été mauvais. Mais je pense que il y a l'absence d'Anderson aussi qui est peut-être un facteur. Mais je pense aussi que le fait que tout était assez facile finalement pour eux cette saison. Personne les a vraiment poussés dans leur retranchement en première ligue, même en étant à 50, 60, parfois juste 70%. Ça suffisait pour gagner à chaque fois, à l'extérieur, à domicile. Il y a vraiment qu'à Manchester United, à Old Trafford, où ils sont menés 1-0 jusqu'à la 85e. Mais sinon, ça suffisait. Et le jour où ils sont arrivés à Watford à 50% de leurs moyens en pensant que ça passerait, bah, c'est pas passé. Et je pense que psychologiquement, cette défaite, elle leur a aussi fait du mal. Et que maintenant, ça va mettre un petit peu de temps pour relancer la machine, comme on avait pu le voir en début de saison.
Tu les sens comment pour mercredi soir, Julien?
Je pense qu'ils vont se qualifier, mais je pense que ça va être très compliqué et je pense qu'il faudra encore attendre un petit peu pour les voir revenir vraiment à leur meilleur niveau, et ça arrivera peut-être plus tard dans la saison, mais il faut qu'ils se méfient et je pense qu'ils le savent. Je pense qu'on va avoir une ambiance assez exceptionnelle à Anfield. Klopp va savoir les motiver, les surmotiver, et c'est une équipe maintenant qui a l'habitude de ce genre de gros matchs, mais c'est vrai que la forme, autant offensivement que défensivement, est quand même inquiétante.
Un mot d'Arsenal également, laborieux aussi. Pff, tu l'as commenté, hein, Kevin.
Ouais, une équipe d'Arsenal.
1-0 victoire contre West Ham.
Je pense que Julien a dû voir le match aussi, mais ouais, une équipe d'Arsenal qui, honnêtement, aurait mérité de minimum de faire un match nul, voire franchement, s'il y a une des deux équipes en termes d'occasion qui mérite de gagner, c'est quand même West Ham, parce que cette équipe de West Ham, les Hammers, qui ont eu énormément d'opportunités de marquer quand même.
C'est clair, et sincèrement je me suis retrouvé comme si Unai Emery était encore l'entraîneur. En regardant ce match, j'ai eu l'impression que c'était la même chose. C'était une possession stérile, je crois ils ont 76% de possession en première mi-temps, un truc comme ça, un truc assez ridicule. Ils ont zéro tir cadré, il se passait rien dans ce match-là, il n'y avait rien, il n'y avait pas de dédoublement, il n'y avait pas de jeu en triangle, il n'y avait pas de 1-2, il n'y avait pas d'intensité, il n'y avait rien du tout. Ils s'en sortent avec beaucoup de réussite, comme tu l'as très bien dit Kevin, parce que Lacazette marque un but un peu chanceux sur une frappe à un moment dévié qui revient sur Ozil et tout ça. Mais sinon West Ham peut facilement marquer 2 ou 3 buts dans cette rencontre et ça peut tourner encore différemment, comme contre Everton déjà la semaine dernière. Mais ça fait quand même 3 victoires de suite en championnat pour la première fois de la saison pour Arsenal.
Julien, tu seras dans l'after demain soir pour débriefer bien sûr le derby de Manchester United.
Juste une dernière petite chose Nico, rapidement. Mourinho a encore massacré publiquement Tanguy Ndombele aujourd'hui, qui est sorti à la pause. C'est pas la première fois, on en avait déjà parlé souvent dans l'émission, ouais. Mais là ça commence à faire vraiment beaucoup. Ouais. Et il l'a vraiment déchiré.
Il a dit quoi en un mot?
Il a dit que c'est inacceptable qu'il donne pas plus à cette équipe, qu'avec le potentiel qu'il a, il doit se réveiller, que maintenant il a eu assez de temps pour s'acclimater, pour donner plus. Il l'a défoncé devant tout le monde, c'est incroyable.
Après Pogba, Ndombele quoi.
Et bien ça est premier, Leeds est premier.
Ouais, Leeds est premier.
Et Leeds est premier.
En route pour la montée en première ligue. Merci Julien, à demain soir.
Merci,
excellente soirée à toi. Merci Jonathan, merci Kevin.
Merci à
tous d'avoir écouté. À demain, bye.
RMC. Lefterfoot. Problems. It's human nature to hate problems. But why is that? After all, problems inspire us to mend things, bend things, make things better. That's why so many people work with IBM on everything, from city traffic to ocean plastic, new schools to new energy, flight delays to food safety. Smart loves problems. IBM. Let's put smart to work. Visit ibm.com/smart/UK to learn more.